Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal, présenté par Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Les titres de ce journal, Journée mondiale de lutte contre la corruption, Félix Tshisekedi s'insurge contre ce fléau qu'il considère comme une perversion morale et sociale. Le chef de l'État s'est exprimé lors de la conférence organisée à Kinshasa par l'inspection générale des finances à l'occasion justement de cette journée du 9 décembre. Bintou Keïta demande aux acteurs sécuritaires présents dans l'est de la RDC de maintenir une coordination et une coopération active avec la MONUSCO. Objectif, permettre à la mission onusienne de travailler librement en vue d'accomplir sa mission de protéger les civils. La chef de la MONUSCO l'a indiqué lundi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York lors de la présentation de son rapport sur la situation du Congo. La résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU a totalisé hier lundi 9 ans depuis son adoption au sein même du Conseil de sécurité. Ce texte encourage les États membres à accroître la représentation des jeunes au sein des instances de prise de décision. Nous allons écouter le coordonnateur national du panel d'experts de cette résolution, Eddy Yav, est notre invité. Encore une fois, bonjour. Journée mondiale de lutte contre la corruption hier, 9 décembre, avec cette réaction de Félix Tshisekedi. La corruption est une perversion morale et sociale, un affaiblissement insidieux de nos institutions, a-t-il souligné. C'était à l'occasion de la conférence organisée par l'inspection générale des finances à Kinshasa, dans le cadre justement de cette journée. Plus encore, le président de la République a réitéré sa détermination à créer un environnement juridique et institutionnel plus stable à la lutte contre la corruption. Suivez le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans cet extrait choisi par Jude Mystère Bilanda.
Dans un pays comme la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles, de ses hommes et de ses femmes, de son histoire, de sa jeunesse nombreuse et dynamique, la corruption constitue un frein cruel. Elle bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publics, fragilise notre système sanitaire et éducatif, alimente l'injustice et creuse les inégalités. La corruption détourne l'argent public de son but initial, qui est de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, garantir un accès à l'eau potable, à l'électricité et à la santé ou à la justice. Les fonds destinés aux programmes de formation, aux initiatives en faveur de la jeunesse, se perdent, privant ainsi nos enfants et nos étudiants du bagage dont ils ont besoin pour porter le flambeau du futur.
Félix Tshisekedi, président de la République. Journée mondiale de lutte contre la corruption, la Ligue congolaise contre la corruption n'est pas en reste. Selon son président, cette pratique ne cesse de gagner du terrain malgré le grand nombre de structures dédiées à la lutte contre ce fléau. Selon Ernest Mpararo, les responsables politiques ne s'engagent réellement pas dans cette lutte et entravent les actions des structures en charge de combattre la corruption. Écoutez les propos d'Ernest Mpararo au micro de Jocelyne Moussa Oponde.
Au niveau national, il y a des structures comme l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'Inspection générale des finances qui fait la prévention dans les détournements des finances publiques, il y a le CNRF qui lutte contre le blanchiment de capitaux, il y a l'Observatoire de l'éthique professionnelle qui devrait aussi sensibiliser les agents de l'État pour qu'ils puissent avoir un comportement éthique pour préserver les biens de l'État. Malheureusement, nous constatons que il y a certains services qui font leur travail, mais comme c'est un maillot, à un certain niveau, il y a blocage de ces maillots-là parce que les aspects politiques ne sont pas pris en compte. Les politiciens ne veulent pas changer de comportement. Or, les politiciens influent sur la gouvernance, que ce soit judiciaire, que ce soit sécuritaire, ainsi de suite. Il n'y a pas beaucoup d'avancées, étant donné que le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, la primature, ne s'engagent pas courageusement pour effectivement lutter contre la corruption.
Pour clore ce dossier lutte contre la corruption, notez ce thème évoqué par le collectif des organisations de la société civile dédiées au suivi et au contrôle des finances publiques et la lutte contre la corruption. Il est intitulé « La jeunesse, clé de voûte dans la lutte contre la corruption ». Dans un communiqué de presse publié ce lundi à Kinshasa, à l'occasion toujours de la Journée internationale de lutte contre la corruption, ces organisations comprenant une dizaine de structures affirme que la République démocratique du Congo traverse actuellement une crise profonde de gouvernance qui affecte l'ensemble de ses institutions. La situation actuelle marquée par un taux de chômage alarmant chez les jeunes et un manque criant de formation professionnelle crée un terrain fertile pour la corruption, explique-t-elle, raison pour laquelle ce collectif propose entre autres la création d'incubateurs d'entreprises jeunes dans chaque province et l'établissement de programmes de formation professionnelle transparents. Explication avec Grâce Hamzati.
À en croire ces organisations, le détournement des fonds destinés aux centres de formation professionnelle, comme révélé dans le rapport de l'IGF, illustre parfaitement comment la corruption actuelle compromet directement l'avenir de notre jeunesse. Cette situation crée un cercle vicieux. Sans formation adéquate ni perspective d'emploi, les jeunes risquent de perpétuer les pratiques de corruption qu'ils subissent aujourd'hui. Dans les domaines sécuritaires, la situation est particulièrement préoccupante, caractérisée par une corruption endémique dans la chaîne d'approvisionnement militaire, un trafic d'armes impliquant certains officiers et une exploitation illégale persistante des ressources dans les zones des conflits, déclare le collectif. Sur le plan politique et administratif, le pays souffre d'un népotisme généralisé dans les nominations aux postes clés, accompagné des détournements systématiques des fonds de fonctionnement des institutions, souligne le communiqué. L'absence de reddition des comptes aggrave cette situation déjà critique. Conséquence, la jeunesse congolaise est plongée dans une culture d'acceptation du mal où les auteurs des détournements sont devenus des modèles admirés à cause de l'argent facile. Ainsi, parmi les actions immédiates à prendre, la société civile exige la fin de la culture d'impunité et l'ouverture d'enquêtes sur tous les projets qui ont échoué et la publication des audits des entreprises publiques.
Justice à présent, fin de l'instruction du dossier relatif au détournement présumé des fonds alloués aux ouvrages de forage d'eau. La Cour de cassation a auditionné à son audience publique d'hier lundi les renseignants Guy Mikoulou et Nicolas Kazadi, respectivement anciens ministres du Développement rural et des Finances. Ils étaient face au prévenu Mike Kasenga, opérateur économique responsable de Steve Construct, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural. Dans sa déposition, l'ex-ministre des Finances a rejeté les accusations de surfacturation et a accusé l'IGF de légèreté. Il a défendu la transparence de sa gestion. Quant à Guy Mikoulou, les travaux d'exécution qui se font après lui ne reflètent pas les clauses du contrat signé au mois d'avril 2021, même s'il l'a signé tout en étant démissionnaire. Allons croire, c'était un contrat qui était en cours d'exécution depuis 2020. C'est le 23 décembre prochain que la Cour va recevoir les plaidoiries de la défense et le réquisitoire du ministère public. Dans la suite de l'actualité, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO demande à tous les acteurs sécuritaires présents dans l'est du pays de maintenir une coordination et une coopération active et constructive avec la MONUSCO car la force de la mission onusienne doit avoir une liberté de mouvement et de manœuvre afin de mieux protéger les civils, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où la situation sécuritaire demeure préoccupante. Madame Bintou Keïta l'a dit ce lundi à New York lors de la présentation de son rapport sur la situation concernant la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, tout en appelant à un soutien constant de la communauté régionale et internationale à la facilitation angolaise dans le conflit RDC-Rwanda. La chef de la MONUSCO estime que les processus locaux, provinciaux, nationaux et régionaux doivent s'articuler de façon harmonieuse et se compléter pour favoriser une paix et une stabilité durable. Elle réitère également la détermination de la MONUSCO dans la protection des civils. On écoute Madame Bintou Keïta dans cet extrait proposé par Grâce Hamzati.
Le M23, non signataire de l'accord de cessez-le-feu, a consolidé son occupation civile et militaire au Nord Kivu. Aujourd'hui, il contrôle de vastes zones dans les territoires de Masisi, Rutshuru, Walikale, Nyiragongo et Lubero, un espace deux fois plus large que celui occupé en 2012. Les forces démocratiques alliées, ADF, demeurent le groupe armé le plus meurtrier, avec des centaines de civils tués ces derniers mois. En Ituri, même si le nombre d'attaques de Codeco et Zaïre visant les civils ont diminué ces trois derniers mois, la protection des civils reste un défi et une priorité absolue. Dans cet environnement complexe, la MONUSCO facilite le dialogue entre les acteurs concernés, encourage la participation des femmes et des jeunes au processus de paix, prend des mesures dissuasives contre les attaques potentielles et soutient les FRDC dans leurs opérations de protection. La MONUSCO protège environ 100 000 déplacés vivant autour de ces bases à Ro, Drodro et Fataki. En outre, l'opération Secure Harvest, impliquant plus de 860 patrouilles depuis le 1er octobre sur une vaste zone géographique, a permis aux agriculteurs de 40 sites entre Bunia et Djougou, en Ituri, de récolter le fruit de leur travail en toute sécurité.
Pour sa part, toujours au Conseil de sécurité des Nations Unies, la ministre d'État, ministre congolaise des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, note que près de 3 déplacés sur 4 en RDC cette année sont liés au conflit avec le Rwanda et le M23, exacerbant ainsi une crise humanitaire déjà dramatique. Pour Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, des déplacements massifs des populations, des bombardements des camps de déplacés, des attaques contre les forces de maintien de la paix de la MONUSCO et de la SADC, l'occupation illégitime des entités congolaises, ainsi que le pillage de ressources naturelles de la RDC sont autant des pratiques qui traduisent jusqu'ici le manque de volonté du Rwanda à respecter les engagements de paix. Elle dénonce également le fait que depuis la création du mécanisme de vérification ad hoc renforcé le 5 novembre dernier à Goma, non daté pour surveiller le cessez-le-feu entré en vigueur au mois d'août, les experts du Rwanda n'ont jamais assumé leur fonction, d'où elle appelle le Conseil de sécurité à renforcer son regard sur le processus de Luanda. Thérèse Kayikwamba Wagner, dans cet extrait que nous propose encore une fois Grâce Hamzati.
Cela fait donc 34 jours que le fonctionnement de ce mécanisme est entravé, mettant en doute la volonté du Rwanda de respecter ses engagements. Pendant ce temps, le Rwanda et le M23 ont systématiquement continué à violer le cessez-le-feu tout en paralysant délibérément le mécanisme pour échapper à toute responsabilité. Face à ces réalités alarmantes, il est impératif que ce Conseil reste mobilisé dans son soutien au processus de Luanda et exige des parties le respect de leurs engagements. Dans cette optique, le renouvellement du mandat de la MONUSCO doit impérativement refléter la dimension régionale du conflit, tout en maintenant une approche conditionnelle et responsable pour son retrait progressif. Cela est essentiel pour répondre aux menaces transfrontalières et garantir qu'aucun vide sécuritaire ne soit laissé. La RDC salue à cet égard la résolution 2746 qui reconnaît le rôle central de la communauté de développement de l'Afrique australe dans la stabilisation régionale. La mission SAMIDRC, mandatée dans ce cadre, constitue un pilier stratégique pour renforcer les efforts conjoints de protection des civils et de lutte contre les menaces transfrontalières. Cependant, ces défis nécessitent une coordination encore plus étroite entre la MONUSCO et le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs.
En réaction, le représentant du Rwanda au Conseil de sécurité affirme que les experts de son pays pour le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pourront arriver incessamment. Selon Ernest Roy-Moussio, le conflit dans l'est de la RDC est plutôt dû à la marginalisation des communautés minoritaires dans l'est de la RDC, d'où déclare-t-il, je le cite, « l'interprétation erronée des racines ». Par certains membres du Conseil renforce l'intransigeance de la RDC à trouver une solution politique viable au conflit. Fin de citation. En outre, le Rwanda dit soutenir la proposition faite au sommet de la CAO le 30 novembre dernier de fusionner les processus de paix de Nairobi et de Luanda afin de trouver une solution globale à la crise qui prévaut dans l'est du Congo. Il appelle également la communauté internationale à continuer d'appuyer le processus régional qui constitue le moyen le plus viable de trouver une solution à l'insécurité dans l'est de la RDC. Toutefois, alors que les initiatives régionales sont ébauchées, le Rwanda dit s'inquiéter par la posture hostile, les déclarations incendiaires et les menaces de renforcement du régime de la part des autorités de la RDC, ce qui alimente les tensions et risque de miner les initiatives en cours, souligne le représentant du Rwanda au Conseil de sécurité. Un sommet tripartite réunissant la RDC et le Rwanda en conflit et sous la médiation de l'Angola est annoncé ce dimanche 15 décembre à Luanda, la capitale angolaise. Cela en vue d'une désescalade des tensions entre les deux pays afin de parvenir à la paix dans l'est de la RDC. Selon le représentant de l'Angola auprès des Nations Unies, qui l'a confirmé ce lundi au Conseil de sécurité, c'est grâce à l'engagement personnel des chefs d'État de ces trois pays que cette rencontre va s'organiser. Francisco José da Cruz affirme que ce sommet représentera l'aboutissement d'une série d'initiatives de médiation visant à faire venir la paix, la stabilité et le développement économique dans la région. Il appelle ainsi à une ferme implication de tous pour la réussite de ce processus. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grâce Hamzati.
Angola est optimiste au vu des progrès réalisés jusqu'ici. L'engagement de haut niveau dont font preuve les deux pays concernés depuis le début du processus de négociation nous semble encourageant. Cela étant dit, nous aimerions une fois de plus être très clairs. Les efforts déployés par le médiateur ne seront couronnés de succès que si toutes les parties concernées et toutes les parties prenantes pertinentes, y compris le Conseil de sécurité, continuent d'étayer le processus pour contribuer à la mise en place d'un environnement propice à la stabilité et à la sécurité dans la région. J'aimerais partager avec vous deux initiatives importantes lancées par le gouvernement angolais pour contribuer à la paix et à la stabilité dans la région. Les 18 et 19 octobre, l'Angola a accueilli le Forum régional de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs, à Luanda. L'objectif était de promouvoir une implication majeure des femmes dans le processus de paix en cours dans la région des Grands Lacs. Le 23 novembre, l'Angola a signé un mémorandum d'accord avec la MONUSCO dans le cadre de sa détermination à travailler avec l'ONU pour appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de vérification renforcée ad hoc.
Actualité internationale.
Sitôt Assad renversé, l'Europe suspend l'examen des demandes d'asile des réfugiés. À peine le président Bachar al-Assad chassé du pouvoir, le débat sur l'accueil des réfugiés syriens a ressurgi hier lundi en Europe. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, annonçant un gel des procédures de demande d'asile pour les exilés de ce pays. Le ministère de l'Intérieur français a indiqué travailler sur une suspension des dossiers d'asile en cours provenant de Syrie.
L'invité.
La résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU totalise ce lundi 9 ans depuis son adoption au Conseil de sécurité. Ce texte encourage les États membres à accroître la représentation des jeunes au sein de leur instance de prise de décision. Invité de Radio Capi, le coordonnateur national du panel d'experts de cette résolution, Eddy Yav, salue le progrès que la RDC a réalisé en mettant en place la stratégie nationale de la participation politique des jeunes. Il précise que cet instrument bénéficie de l'appui de la MONUSCO. Il répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, monsieur Eddy Yav.
Bonjour, monsieur Blaise.
Il y a de cela 9 ans, jour pour jour, que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2250. Quel bilan dressez-vous de l'applicabilité de ces textes ici au niveau de la RDC?
Merci beaucoup, monsieur Blaise, et aussi l'opportunité que vous nous offrez par l'entremise de la radio CAPI. Il est certes vrai que 9 ans après, ça veut dire le 9 décembre 2015 au 9 décembre 2024, que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait estimé qu'il était important de placer les jeunes à la place des décisions. La République démocratique du Congo, qui est une des entités des Nations Unies qui a accepté de mettre en œuvre cet outil très important pour la jeunesse congolaise, a fait beaucoup de choses. Et la liste est tellement très longue. La première chose, c'est que la RDC, à travers son gouvernement, a mis en place un plan d'action nationale de mise en œuvre de la résolution 2250, qui a été portée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, en son temps, M. Daniel Asselo Nkoy, et nous avons eu le privilège, en tant que responsable du panel des experts pour la 2250, chapitre de la RDC, d'initier ce plan d'action nationale, d'en conduire les travaux techniques, et aujourd'hui, nous sommes fiers. Et je dois avouer que si le gouvernement s'implique dans de telles initiatives, on comprend à un certain niveau qu'on a besoin que les jeunes aillent de l'avant. Il ne faudra pas non plus oublier, M. Blaise, que la jeunesse occupe aujourd'hui plus de 70% de la population active et en âge de voter. La deuxième chose que la RDC a faite en ce qui concerne la 2250, on a commencé à former les acteurs de première ligne. On les a formés, que ce soit à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, partout au niveau de la République, on a essayé de faire ce qu'on pouvait.
Moi, vous parlez de la formation des jeunes, mais les chiffres sur terrain nous démontrent que la participation des jeunes, voire l'implication des jeunes dans les processus électoraux, a été trop faible. Par exemple, les processus électoraux de 2023.
Nous avons été parmi les personnes qui avions conduit un certain nombre de travaux au niveau de l'Assemblée nationale en son temps pour que l'on puisse prendre en compte les désidératas des jeunes dans la nouvelle loi électorale. Mais qui est ces députés qui avaient accepté de nous porter, M. Blaise? Il n'y en avait pas. Les problèmes des jeunes, ce sont les problèmes que rencontrent aussi les femmes au niveau de la communauté. Ça veut dire que tout le monde a des préjugés sur les jeunes. Mais on vous l'a démontré parce que même au niveau du gouvernement, vous avez parmi les membres du gouvernement un jeune qui a montré qu'avec les jeunes, on pouvait faire mieux. C'est M. Moutamba Constant, que je félicite en passant, et à qui j'ai dédié cette journée consacrée à la résolution 2250 sur les jeunes de la PLAC. Au moins, on a compris qu'en plaçant les jeunes aux instants des décisions, c'était changer les choses. Aujourd'hui, nous avons seulement 11,7% des jeunes qui sont en sphère.
Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire en sorte que des jeunes congolais quittent cette étape de porteur des mallettes et qu'ils prennent part aux instances des prises de décision?
Tout à fait. Très belle question. Nous sommes en train de travailler avec son Excellence Madame la Ministre en charge de la jeunesse et des veilles patriotiques, Madame Noëlla Aegana-Gatto, à qui je dédie également cette journée du 9 décembre que célèbre l'humanité entière. Nous sommes en train de travailler pour élaborer la stratégie nationale de la participation politique des jeunes. Cet outil-là, c'est un document qui permettra au gouvernement d'utiliser toutes les stratégies possibles pour placer les jeunes aux instances des décisions. Comme nous avons échoué avec la loi électorale qui pouvait nous donner beaucoup plus de garanties, on a échoué avec la nomination des jeunes à des sphères de décision. Alors, nous avons mis en place cette initiative qui est la stratégie nationale de la participation politique des jeunes. C'est un nouvel instrument du gouvernement qui va permettre à ce que l'on puisse placer les jeunes dans toutes les sphères de décision, que ce soit privé, des sphères publiques, etc. On va trouver des stratégies. Et nous avons commencé les travaux. On a eu l'appui de la MONUSCO, la mission des Nations Unies, et le Fonds des Nations Unies pour la population a demandé à ce qu'on élargisse le sac de réflexion pour que l'on puisse avoir d'autres bailleurs de fonds. Et nous sommes en train d'y travailler. On va aussi initier d'autres instruments. On voudrait maintenant que dans cette nouvelle dynamique, qu'on accorde de la place aux jeunes. C'est inconcevable que l'on ait aujourd'hui plus de 70% de la population, mais qu'on ne les trouve pas à la place des décisions.
Vous menez des actions, c'est bien. Vos actions devaient bénéficier de l'appui des patrons politiques, parce que ce sont eux souvent qui bloquent la machine. Qu'est-ce que vous voulez relancer comme message?
À l'occasion de cette journée du 9e anniversaire de la 2250, j'invite son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Antoine, qui nous entend, et d'ailleurs qui a rappelé à la jeunesse, que ce soit à Kisangani, que ce soit dans d'autres provinces où il a circulé pendant son itinérance, il les a appelés à l'accompagner. C'est maintenant le moment de matérialiser cela par des textes légaux. Donc, tout ce que nous faisons, c'est nous multiplions les dialogues avec les responsables politiques au plus haut niveau.
Monsieur Eddy Yava, nous vous disons merci.
Je vous en prie, Monsieur Blaise Dongala.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujangwe, à Jude Bilanda et à Polydor Basunga. En attendant, je vous laisse entre les très bonnes mains de Baya Tchamala.